Ma femme et moi sommes reconnaissants d'être avec vous ce soir. Lors de nos voyages, nous apprécions particulièrement de pouvoir nous réunir avec des jeunes gens fidèles comme vous qui nous apprennent beaucoup. Je prie ce soir pour avoir l'aide du Saint-Esprit, tandis qu'ensemble nous rendons notre culte et cherchons à être enseignés d'en haut. Je vais commencer en posant une question simple. Quelle est la substance ou le produit qui a la plus grande valeur au monde? Il pourrait venir en première à l'esprit que c'est l'or, le pétrole ou les diamants. Mais de tous les minéraux, métaux, pierres précieuses et solvants se trouvant sur ou dans la terre, le plus précieux est l'eau. La vie surgit de l'eau. La vie dépend de l'eau. L'eau est le milieu nécessaire pour accomplir les différentes fonctions associées à toutes les formes connues de vie. Votre corps physique est composé d'environ 2/3 d'eau. Une personne peut survivre de nombreux jours et même des semaines sans nourriture, mais généralement, elle meurt au bout de seulement 3 ou 4 jours sans eau. La plupart des grands centres de population du monde sont situés près de sources d'eau douce. Autrement dit, la vie ne pourrait pas exister sans la disponibilité de quantités suffisantes d'eau potable. Étant donné le rôle vital de l'eau pour assurer toutes les formes de vie, l'utilisation par le Sauveur du terme « eau vive » est d'une importance suprême. Comme cela est raconté dans le 4e chapitre de Jean, Jésus et ses disciples ont traversé la Samarie pour aller de Judée en Galilée. Dans la ville de Sichar, ils se sont arrêtés au puits de Jacob. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi, qui suis une femme samaritaine ? » Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. L'eau vive dont il est parlé dans ce passage est une représentation du Seigneur Jésus-Christ et de son Évangile. Et de même que l'eau est nécessaire à la vie physique, de même le Sauveur, sa doctrine, ses principes et ses ordonnances sont essentiels à la vie éternelle. Vous et moi avons besoin de son eau vive quotidiennement et en abondance pour nous assurer une croissance et un développement spirituel continu. Les Écritures contiennent les paroles du Christ et sont un réservoir d'eau vive auquel nous avons facilement accès, auquel nous pouvons boire abondamment et longtemps. Vous et moi devons regarder vers le Christ et aller au Christ, qui est la source d'eau vive, en lisant, en étudiant et en sondant les paroles du Christ contenues dans les Saintes Écritures, et en nous en faisant un festin. En faisant ainsi, nous pouvons à la fois être guidés et protégés spirituellement durant notre voyage dans la condition mortelle. L'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours a l'intendance sacrée d'assurer la pureté et la sécurité des révélations écrites, le précieux réservoir d'eau vive. Un travail monumental a été accompli par l'Église dans les années 1970 et 1980 et a donné l'édition des Écritures que nous avons aujourd'hui, avec de nombreuses notes de bas de page, références croisées, aides à l'étude, cartes et renseignements supplémentaires. Quand ces nouvelles Écritures ont été présentées aux membres de l'Église au début des années 1980, Boyd K. Packer a prophétisé, je cite, au fil des ans, ces Écritures produiront une suite de générations de fidèles chrétiens qui connaissent le Seigneur Jésus-Christ et sont disposés à obéir à sa volonté. La génération précédente a été élevée sans elle, mais une nouvelle génération est en train de monter. » Fin de citation. 24 ans ont passé depuis que Frère Packer a prononcé ces paroles. Et la génération dont il parlait est assise ce soir dans les bâtiments de l'Église partout sur la terre. Il parlait de vous et il parlait de moi. La grande majorité d'entre vous n'a connu que les Écritures telles que nous les avons aujourd'hui. Gardez ce fait à l'esprit tandis que je considère, ou continue, de citer Frère Packer. Je cite, « Les révélations des gens de cette nouvelle génération lui seront manifestées comme à aucune autre dans l'histoire du monde. C'est dans leurs mains que sont mis maintenant le bois de Joseph et celui de Judas. Ils acquerront une connaissance de l'Évangile qui dépassera celle qu'ont pu atteindre leurs ancêtres. Ils auront le témoignage que Jésus est le Christ et ils seront aptes à le proclamer et à le défendre. » Fin de citation. Non seulement nous sommes bénis d'avoir ces Écritures à notre disposition aujourd'hui, mais nous avons aussi la responsabilité de les utiliser constamment et efficacement pour boire abondamment au réservoir d'eau vive. Je crois que la génération actuelle de jeunes est davantage immergée dans les Écritures, connaît mieux les paroles des prophètes et se tourne plus facilement vers les révélations pour avoir des réponses que toute génération précédente. Mais nous avons encore une longue distance à parcourir sur le chemin étroit et resserré, davantage de choses à apprendre, à appliquer et à vivre. Je vais maintenant examiner avec vous trois moyens ou méthodes de base pour puiser de l'eau vive dans le réservoir scripturaire. 1. Lire les Écritures du début à la fin. 2. Étudier les Écritures par sujet. Et 3. Sonder les Écritures pour trouver des liens, des modèles et des thèmes. Chacune de ces méthodes peut permettre d'étancher notre soif spirituelle si nous suscitons la compagnie et l'aide du Saint-Esprit quand nous lisons, étudions et sondons les Écritures. La lecture d'un livre d'Écriture du début à la fin commence à faire couler l'eau vive dans notre vie en nous faisant connaître des histoires importantes, la doctrine de l'Évangile et des principes éternels. Cette méthode nous permet aussi de connaître les principaux personnages des Écritures et la suite, l'enchaînement et le contexte des événements et enseignements. La lecture de cette manière de la parole écrite nous met en contact avec toute l'étendue d'un volume d'écriture. C'est le premier moyen et le plus fondamental pour obtenir l'eau vive. L'étude par sujet vient généralement ensuite, découle de notre lecture des écritures du début à la fin et l'approfondit. Par exemple, en lisant le Livre de Mormon, nous pouvons trouver et essayer de chercher des réponses à des questions doctrinales ou pratiques importantes comme les suivantes. Qu'est-ce que la foi au Sauveur? Pourquoi la foi en Jésus-Christ est-elle le premier principe de l'Évangile? Pourquoi et comment la foi au Rédempteur mène-t-elle au repentir? Comment l'expiation m'aide-t-elle à faire dans ma vie quotidienne des choses que je ne pourrais jamais faire avec seulement mes capacités limitées et ma force personnelle? Le fait de nous concentrer sur ce genre de questions et d'étudier par sujet à l'aide du guide des Écritures nous permet de creuser et d'explorer en profondeur les Écritures et d'obtenir une connaissance spirituelle beaucoup plus étendue. Cette méthode augmente le débit auquel l'eau vive coule dans notre vie. La lecture du début à la fin et l'étude par sujet sont des conditions préalables à la troisième méthode de base pour puiser de l'eau vive dans le réservoir scripturaire. Alors que la lecture d'un livre d'écriture du début à la fin permet d'accroître l'étendue de la connaissance, l'étude par sujet augmente la profondeur de notre connaissance. En sondant les révélations pour trouver des liens, des modèles et des thèmes, nous augmentons notre connaissance spirituelle en réunissant et en développant ces deux premières méthodes. Cela élargit notre perspective et notre compréhension du plan du salut. À mon avis, sonder diligemment pour découvrir des liens, des modèles et des thèmes est en partie ce que signifie se faire un festin des paroles du Christ. Cette méthode peut ouvrir les écluses du réservoir spirituel, éclairer notre compréhension grâce à son esprit et produire une profonde reconnaissance pour les Saintes Écritures et un degré d'engagement spirituel que nous ne pouvons recevoir d'aucune autre manière. Sonder de la sorte nous permet d'édifier sur le roc de notre Rédempteur et de résister au vent d'iniquité de ces derniers jours. Je veux souligner un point essentiel. Vous pourriez penser qu'on doit avoir fait beaucoup d'études pour utiliser les méthodes que je décris. Ce n'est pas vrai. Quiconque recherche honnêtement la vérité, quel que soit son niveau d'étude, peut réussir à employer ces approches simples. Vous et moi n'avons pas besoin d'aide à l'étude perfectionnée et nous n'avons pas à nous reposer outre mesure sur la connaissance spirituelle des autres. Nous avons simplement besoin d'un désir sincère d'apprendre, de la compagnie du Saint-Esprit, des Saintes Écritures et d'un esprit actif et curieux. Joseph Smith, le prophète, a enseigné « Sondez les Écritures, sondez les révélations que nous publions et demandez à votre Père Céleste, au nom de son Fils Jésus-Christ, de vous en manifester la vérité. Et si vous le faites, le regard fixé uniquement sur sa gloire, n'ayant aucun doute, il vous répondra par le pouvoir de son esprit. Vous saurez alors que, par vous-même et non pas par quelqu'un d'autre, alors la connaissance que vous aurez de Dieu ne dépendra pas de l'homme. Si vous et moi demandons, cherchons et frappons, restant toujours dignes d'apprendre de l'esprit, alors les écluses du réservoir spirituel s'ouvriront pour nous et l'eau vive coulera. Je témoigne et je promets que c'est vrai. Je vais vous expliquer brièvement ce que j'entends par lien, modèle et thème et vous donner des exemples. Un lien est une relation entre des idées, des gens, des choses ou des événements. Et les Écritures sont remplies de liens. Réfléchissez aux relations entre le Père éternel et son Fils Jésus-Christ, entre la miséricorde et la grâce, entre des mains propres et un cœur pur, entre un cœur brisé et un esprit contrit, entre le blé et l'ivraie, entre la connaissance et l'intelligence, entre la justification et la sanctification, entre les brebis et les boucs, entre l'immortalité et la vie éternelle et d'innombrables autres. Trouvez, à l'aide de la prière, étudiez et méditez sur ces liens, par exemple les similarités et les différences, est la principale source d'eau vive et produit des pensées inspirées et des trésors de connaissances cachées. En lisant chacun des ouvrages canoniques du début à la fin et en étudiant différents sujets, j'ai remarqué que le mot « compréhension » est souvent décrit en relation avec le cœur. Deux versets du Livre de Mormon illustrent ce lien. Vous n'avez pas appliqué votre cœur pour avoir l'intelligence. C'est pourquoi vous n'avez pas été sage. Et la multitude entendit, et elle en rend témoignage, et elle eut le cœur ouvert, et elle comprit dans son cœur les paroles qu'il dit dans sa prière. Je trouve très intéressant que dans ces versets et beaucoup d'autres, la compréhension soit liée principalement au cœur. Remarquez qu'il ne nous est pas explicitement recommandé d'essayer de comprendre avec notre intelligence. Il est évident que nous devons utiliser notre intelligence et notre raisonnement pour obtenir et évaluer les renseignements, puis pour aboutir aux conclusions et jugements qui conviennent. Mais peut-être les Écritures nous suggèrent-elles que la raison et le bras de la chair ne sont pas suffisants pour produire une véritable compréhension. Ainsi, la compréhension, telle que le terme est utilisé dans les Écritures, ne se réfère pas uniquement ni même principalement à la compréhension intellectuelle ou cognitive, mais elle se produit quand une connaissance intellectuelle est confirmée dans notre cœur par le témoignage du Saint-Esprit. Le don spirituel de la révélation opère généralement quand des pensées et des sentiments sont mis dans notre esprit et notre cœur par le Saint-Esprit. Et quand le témoignage et la conviction passent de notre tête à notre cœur, nous n'avons plus seulement de la connaissance, mais nous commençons à comprendre et à chercher le grand changement de cœur. La compréhension est alors le résultat de la révélation, un don spirituel, une condition préalable à la conversion, et elle nous pousse à mener plus constamment une vie en accord avec les principes que nous apprenons. Cette idée révélée sur la relation entre le cœur et la compréhension a beaucoup influencé mon approche de l'apprentissage et de l'étude de l'Évangile, a influencé positivement la manière dont ma femme et moi instruisons nos enfants et nos petits-enfants, et a influencé mon service de la prêtrise. Un modèle est un plan, un schéma ou une norme qui peut être utilisé comme guide pour faire quelque chose de manière répétitive. Les Écritures sont remplies de modèles spirituels. Généralement, un modèle scripturaire est plus large, plus complet qu'un lien. Dans les doctrines et alliances, nous trouvons des modèles pour prêcher l'Évangile, pour éviter d'être trompé, pour construire des temples, pour fonder des villes, pour organiser des collèges, de la prêtrise et des grands conseils, et pour beaucoup d'autres choses. La recherche et l'étude des modèles scripturaires est une autre source importante d'eau vive et nous aide à mieux connaître et mieux comprendre la sagesse et la volonté du Seigneur. En lisant du début à la fin les doctrines et alliances et en étudiant des sujets, j'ai été impressionné par un modèle qui est évident dans de nombreuses réponses du Seigneur aux questions des missionnaires. À plusieurs occasions, en 1831, différents groupes d'anciens qui avaient été appelés à prêcher l'Évangile ont désiré savoir comment ils devaient procéder, quelle route ils devaient prendre et comment ils devaient voyager. Dans les révélations données par l'intermédiaire de Joseph Smith, le Seigneur a dit à ses frères qu'ils pouvaient voyager par eau ou par terre, qu'ils pouvaient fabriquer ou acheter les moyens de locomotion, qu'ils pouvaient voyager tous ensemble ou deux par deux, et que la direction qu'ils prenaient importait peu. Les révélations disaient spécifiquement aux frères de prendre ces décisions comme bon leur semblerait, ou selon que cela leur serait communiqué, selon leur jugement. Et dans chacun de ces cas, le Sauveur a déclaré « Peu importe ». Il peut sembler à première vue surprenant que le Seigneur dise que cela lui importe peu. Il est clair que le Seigneur ne disait pas à ses missionnaires qu'il ne se souciait pas de ce qu'il faisait. Mais il soulignait l'importance d'accorder la priorité à ce qui est le plus important et de se concentrer sur les bonnes choses qui, dans le cas présent, étaient de se rendre dans le champ missionnaire et de commencer à œuvrer. Ils devaient faire preuve de foi, de bon jugement, agir en accord avec les directives de l'Esprit et déterminer le meilleur moyen de se rendre là où ils devaient. L'essentiel était l'œuvre qu'ils étaient appelés à accomplir. La manière dont ils s'y rendaient était importante, mais pas essentielle. Quel modèle remarquable à appliquer dans notre vie et dans la mienne. Jésus-Christ nous connaît et nous aime individuellement. Il se soucie de notre développement et de notre progression spirituelle et il nous encourage à progresser en recherchant l'inspiration, la droiture et un bon jugement. Le Rédempteur ne nous laissera jamais seuls. Nous devons toujours prier pour être guidés. Nous devons toujours rechercher la compagnie constante du Saint-Esprit. Mais nous ne devons pas être déçus ni découragés si les réponses à notre demande d'aide ne nous sont pas toujours données rapidement. Ce genre de réponse est rarement donnée immédiatement. Notre progression serait gênée et notre jugement serait affaibli si chaque réponse nous était donnée immédiatement et sans requérir le prix de la foi, du travail, de l'étude et de la persistance. Le modèle que je décris est succinctement illustré dans les instructions suivantes à ces premiers missionnaires. Je cite, « Si quelqu'un d'entre vous désire aller à cheval ou à dos de mule ou en chariot, moi le Seigneur, je suis disposé à lui donner cette bénédiction, s'il la reçoit de la main du Seigneur, d'un cœur reconnaissant en toutes choses. Il vous appartient de faire ces choses selon votre jugement et les directives de l'Esprit. Voici, le royaume est à vous, et voici, je suis toujours avec les fidèles, j'ai dit. Amen. » Les sujets principaux dans cet épisode ne sont pas les chevaux, les mules ou les chariots. Ce sont la reconnaissance, le jugement et la fidélité. Remarquez les éléments de base dans ce modèle. 1. Un cœur reconnaissant en toutes choses. 2. Selon votre jugement et les directives de l'Esprit. Et 3. Le Sauveur est toujours avec les fidèles. Commencez-vous, frères et sœurs, à ressentir la direction et l'assurance, le renouvellement et la force qu'on peut recevoir en suivant ce modèle simple de jugement inspiré et juste? Les modèles scripturaires sont véritablement une précieuse source d'eau vive. Les choix les plus difficiles que nous avons à faire sont rarement entre le bien et le mal, entre une possibilité attrayante et une qui ne l'est pas. Généralement, les choix les plus difficiles sont entre le bien et le bien. Dans notre exemple, les Écritures, les chevaux, les mules et les chariots étaient peut-être des options aussi efficaces les unes que les autres. De la même manière, vous et moi pourrions aussi voir à différents moments de notre vie plusieurs options acceptables que nous pourrions choisir. Nous devons nous souvenir de ce modèle des Écritures au moment de prendre des décisions de cette importance. Si nous mettons la priorité aux choses essentielles, des choses comme la consécration au Seigneur, le respect des alliances et des commandements, alors nous aurons la bénédiction d'avoir de l'inspiration et un bon jugement en poursuivant le chemin qui nous ramène à notre Père Céleste. Si nous accordons la priorité aux choses essentielles, nous ne pourrons pas faire fausse route. Les thèmes sont des qualités ou des idées conductrices, récurrentes et unifiantes, comme des fils essentiels tissés tout au long d'un texte. Généralement, les thèmes scripturaires sont plus larges que les modèles ou les liens. En fait, les thèmes fournissent le contexte pour comprendre les liens et les modèles. La recherche et la découverte de thèmes scripturaires nous conduisent au point de doctrine et aux principes fondamentaux du salut, aux vérités éternelles qui suscitent la confirmation et le témoignage du Saint-Esprit. Cette approche pour obtenir l'eau vive du réservoir scripturaire est la plus exigeante et la plus rigoureuse, mais elle mène aussi à l'édification et au rafraîchissement spirituel les plus grands. Les Écritures sont remplies de thèmes puissants. Par exemple, le Livre de Mormon est paru dans cette dispensation pour convaincre juifs et gentils que Jésus est le Christ, le Dieu éternel, qui se manifeste à toutes les nations. Le thème central et récurrent du Livre de Mormon est l'invitation à tous à aller au Christ et à être rendus parfaits en lui. Les enseignements, avertissements, exhortations et épisodes de ce livre d'écriture remarquable sont tous centrés sur le fait que Jésus, est le Christ, notre Rédempteur et Sauveur, et ils en témoignent tous. Voici quelques autres exemples de thèmes importants utilisant des passages du Livre de Mormon. Et si les enfants des hommes gardent les commandements de Dieu, il les nourrit et les fortifie et fournit les moyens par lesquels ils peuvent accomplir ce qu'il leur a commandé. Vous devez marcher résolument, avec constance dans le Christ. Les hommes sont pour avoir de la joie. Avec la force du Seigneur, tu peux tout faire. La méchanceté n'a jamais été le bonheur. Si vous me promettez de ne pas rire, je vais vous indiquer un des moyens simples par lesquels je recherche les thèmes scripturaires. Je ne vous préconise pas ni ne vous recommande d'utiliser la même méthode. Différentes personnes utilisent différentes méthodes avec autant d'efficacité. Je décris simplement un processus qui marche bien pour moi. En me préparant récemment à faire un discours, je me suis senti poussé à parler de l'esprit et des objectifs du rassemblement. J'avais étudié le récent message de conférence de Russell M. Nelson sur le principe du rassemblement. J'avais médité dessus et le sujet correspondait parfaitement à la nature et au cadre du discours que j'avais à faire. Je savais que j'avais beaucoup à apprendre des Écritures sur le rassemblement. Alors, j'ai cherché et fait des copies de tous les passages des ouvrages canoniques qui contenaient une forme du mot « rassembler ». Ensuite, j'ai lu chaque passage en cherchant des liens, des modèles et des thèmes. Il est important de noter que je n'ai pas commencé ma lecture avec une série d'idées préconçues que je recherchais. J'ai prié pour avoir l'aide du Saint-Esprit et j'ai simplement commencé à lire. En examinant les Écritures sur le rassemblement, j'ai souligné les versets ayant des expressions ou des points importants similaires avec des crayons de couleur. Quand j'ai lu tous les passages, certains versets étaient soulignés en rouge, certains étaient soulignés en vert et d'autres en d'autres couleurs. Voici maintenant ce qui va peut-être vous faire rire. J'ai ensuite pris mes ciseaux pour découper les passages que j'avais copiés et je les ai classés par couleur. Cela m'a fait une grande pile de passages soulignés en rouge, une grande pile de passages soulignés en vert, etc. Puis, j'ai trié les passages dans chaque grande pile pour faire des piles plus petites. Quand j'étais à la primaire, je devais beaucoup aimer découper avec des ciseaux et mettre les choses en piles. J'ai ainsi beaucoup appris sur le principe de rassemblement. Par exemple, j'ai appris en examinant mes grandes piles que les passages d'Écriture décrivent au moins trois aspects clés du rassemblement. Les objectifs du rassemblement, les types et lieux du rassemblement et les bénédictions du rassemblement. J'ai noté que parmi les principes objectifs, les principaux objectifs du rassemblement, il y a adorer Dieu, recevoir des recommandations et être instruit, édifier l'Église et apporter défense et protection. En étudiant les types et les lieux du rassemblement, j'ai découvert que nous sommes rassemblés en familles éternelles dans l'Église rétablie, dans les pieux de Sion, dans les saints temples et dans deux grands centres, l'ancienne Jérusalem et la ville de Sion ou Nouvelle Jérusalem. J'étais reconnaissant d'apprendre que l'édification, la protection et la force font partie des bénédictions du rassemblement. Par ce procédé, j'en suis venu à apprécier encore plus profondément l'esprit de rassemblement comme partie intégrante du rétablissement de toutes choses dans la dispensation de la plénitude des temps. Je ne vais pas maintenant prendre le temps de citer les autres choses que j'ai apprises sur le rassemblement. Mon but ici est d'illustrer brièvement une manière de rechercher des thèmes scripturaux. Frères et sœurs, les bénédictions de la connaissance, de la compréhension, de la révélation et de l'exaltation spirituelle que nous pouvons recevoir en lisant, étudiant et sondant les Écritures sont merveilleuses. Se faire un festin des paroles de Christ est édifiant, enthousiasmant et agréable. La parole est bonne, car elle commence à m'épanouir l'âme. Oui, elle commence à m'éclairer l'intelligence. Oui, elle commence à m'être délicieuse. Voici, elles sont écrites. Vous les avez devant vous. C'est pourquoi sondez-les. Et cela deviendra en vous une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. En lisant, étudiant et sondant depuis un certain nombre d'années, je me suis concentré de nombreuses fois sur la doctrine de l'expiation de Jésus-Christ. Aucun événement, aucune connaissance ou influence n'a eu plus d'impact sur moi durant mes 54 années de mortalité que la lecture répétée, l'étude en profondeur et la recherche de liens, de modèles et de thèmes en rapport avec la doctrine de l'expiation. Cette doctrine centrale, salvatrice, avec le temps, peu à peu s'est distillée sur mon âme comme la rosée des cieux a influencé mes pensées, mes paroles et mes actes, et est devenu pour moi une source d'eau vive. L'importance de lire, d'étudier et de sonder les Écritures est soulignée dans plusieurs éléments de la vision par Lehi de l'arbre de vie. Lehi a vu plusieurs groupes de gens avancer résolument sur le chemin étroit et resserré, cherchant à parvenir à l'arbre pour en prendre du fruit. Les membres de chaque groupe étaient entrés sur le chemin par la porte du repentir et du baptême d'eau et avaient reçu le don du Saint-Esprit. L'arbre de vie est l'élément essentiel du rêve et est identifié dans 1 Néphi 11 comme étant une représentation de Jésus-Christ. Le fruit de l'arbre est un symbole des bénédictions de l'expiation du Sauveur. Il est intéressant de voir que le thème principal du Livre de Mormon, inviter tous les hommes à aller au Christ, est au centre de la vision de Lehi. La barre de fer qui mène à l'arbre est particulièrement intéressante. La barre de fer est la parole de Dieu. Dans 1 Néphi 8, versets 21 à 23, il y a un groupe de gens qui avaient avancé résolument et s'étaient engagés dans le chemin qui mène à l'arbre de vie. Mais quand ces gens sont arrivés au brouillard de ténèbres qui représente les tentations du diable, ils ont perdu leur chemin, ont erré et se sont perdus. Il est important de noter qu'il n'est pas fait mention de la barre de fer dans ces versets. Les gens qui ignorent la parole de Dieu ou la traitent à la légère n'ont pas accès à cette boussole divine qui indique le chemin qui mène au Sauveur. Voyez que ces gens ont trouvé le chemin et ont avancé résolument, faisant preuve d'une certaine foi au Christ et conviction personnelle. Mais ils ont été détournés par les tentations du diable et se sont perdus. Au verset 24 à 28, on parle d'un deuxième groupe de gens qui sont entrés dans le chemin étroit et resserré qui mène à l'arbre de vie. Ce groupe a avancé résolument dans le brouillard de ténèbres en s'agrippant à la barre de fer jusqu'à pouvoir prendre du fruit de l'arbre. Mais quand ils ont été tournés en dérision par les occupants du grand et spacieux édifice, les gens de ce deuxième groupe ont eu honte, sont tombés dans des sentiers interdits et se sont perdus. Veuillez remarquer qu'il est dit de ce groupe qu'ils s'agrippaient à la barre de fer. Il est important de voir que les gens du deuxième groupe ont avancé résolument avec foi et engagement. Ils ont eu aussi la bénédiction supplémentaire de la barre de fer et ils s'y agrippaient. Mais quand ils ont rencontré la persécution et l'adversité, ils sont tombés dans des sentiers interdits et se sont perdus. Même avec la foi, l'engagement et la parole de Dieu, ce groupe s'est perdu. Peut-être parce que ce n'est pas que périodiquement qu'ils lisaient, qu'ils lisaient ou étudiaient ou sondaient les Écritures. S'agripper à la barre de fer me fait penser plutôt à des sursauts occasionnels d'études ou à une étude irrégulière plutôt qu'à une immersion continue dans la parole de Dieu. Au verset 30, on parle d'un troisième groupe de gens qui ont avancé résolument, se tenant continuellement avec fermeté à la barre de fer, jusqu'à ce qu'ils arrivent, se laissent tomber et prennent du fruit. L'expression clé de ce verset est « se tenant continuellement avec fermeté à la barre de fer ». Le troisième groupe a aussi avancé résolument avec foi et conviction, mais il n'est pas indiqué qu'ils se soient égarés, soit tombé dans des chemins défendus ou se soit perdu. Ce troisième groupe a peut-être lu et étudié et sondé les paroles du Christ de manière régulière. C'est peut-être un flot constant d'eau vive qui a empêché le troisième groupe de périr. C'est le groupe que vous et moi devons nous efforcer de rejoindre. Que signifie la barre de fer que notre Père a vue qui conduisait à l'arbre? Je leur dis que c'était la parole de Dieu, et que quiconque prêtait l'oreille à la parole de Dieu et s'y tenait fermement ne périrait jamais, et que les tentations et les traits enflammés de l'adversaire ne pourraient pas non plus avoir le dessus sur lui, au point de l'aveugler pour l'entraîner vers la destruction. Frères et sœurs, Quelle est alors la différence entre s'agripper et tenir fermement la barre de fer ? Je suggère que tenir fermement la barre de fer signifie utiliser dans la prière et de manière suivie mes trois moyens d'obtenir l'eau vive dont nous avons parlé ce soir. Et il arriva, je cite, que je vis que la barre de fer que mon père avait vue était la parole de Dieu qui conduisait à la source d'eau vive ou à l'arbre de vie. Chacune des méthodes, lire du début à la fin, étudier par sujet, rechercher les liens, les modèles et les thèmes, est édifiante, instructive et fournit une portion intermittente de l'eau vive du Sauveur. Je crois néanmoins que l'utilisation régulière de ces trois méthodes produit un flot plus constant d'eau vive et est en grande mesure ce que signifie se tenir fermement à la barre de fer. En ayant une activité normale, vous et moi perdons chaque jour une grande quantité de l'eau qui constitue une grande partie de notre corps. La soif est une demande d'eau par les cellules du corps et l'eau de notre corps doit être renouvelée quotidiennement. Il n'est franchement pas cohérent de faire occasionnellement le plein d'eau entre de longues périodes de déshydratation. C'est la même chose spirituellement. La soif spirituelle est le moyen ou le besoin d'eau vive. Un flot constant d'eau vive est de loin supérieur à une gorgée de temps en temps. Est-ce que vous et moi lisons, étudions et sondons les Écritures quotidiennement d'une manière qui nous permet de tenir fermement la barre de fer? Ou est-ce que nous nous agrippons simplement? Est-ce que nous avançons résolument vers la source d'eau vive, nous reposant sur la parole de Dieu? Ce sont là des questions sur lesquelles il est important de méditer dans la prière. Pour terminer ce soir, nous allons chanter ensemble le cantique « La barre de fer ». Ce chant des justes sera véritablement une prière fervente et poignante. Puissions-nous avoir des oreilles pour entendre les leçons de ce cantique. Je témoigne de Jésus-Christ, de la puissance de sa parole. Il est le Fils du Père éternel. Et je sais qu'il vit. Je témoigne qu'en tenant fermement la barre de fer, nous arriverons à son eau vive. Moi qui suis son serviteur, je prie pour que la bénédiction suivante vous soit accordée, que votre désir et votre capacité de tenir fermement la barre de fer soient accrus, que votre foi au Seigneur augmente et remplace vos craintes, et que vous buviez abondamment au réservoir scripturaire et parveniez ainsi à connaître le Seigneur. Puissions-nous toujours nous souvenir que lorsque la tentation est forte, lorsque le ciel est nuageux, nous pouvons tenir fermement la barre et implorer l'aide des cieux. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.